Le récit du lettré. Amer et le goût du l'été. Sol Weintraub et sa femme Sarai aimaient la vie qu'ils menaient bien avant que la naissance de leur fille, Rachel, ne les comble autant que pouvait l'être ce couple. Sarai avait 27 ans lorsque l'enfant fut conçu. Sol en avait 29. Ni l'un ni l'autre n'avaient envisagé de suivre un traitement Poulsen, car ils n'en avaient guère les moyens, mais même ainsi, ils pouvaient escompter l'un et l'autre un demi-siècle de bonne santé. Ils n'avaient jamais quitté le monde de Barnard, l'une des plus anciennes mais aussi plus ternes planètes de l'hégémonie. Barnard faisait partie du Retz, mais cela faisait peu de différence pour Sol et Sarai, dans la mesure où ils ne pouvaient se permettre de se distransporter souvent et ne le souhaitaient pas vraiment de toute manière. Sol avait récemment célébré sa 10e année à l'université de Knighton-Elser, où il enseignait l'histoire et les belles-lettres tout en poursuivant ses propres recherches sur l'évolution de l'éthique. Knighton-Elser était une petite université de moins de 3000 étudiants, mais sa réputation était grande et elle attirait des jeunes de tout le Retz. Le principal grief des étudiants était que Knighton-Elser et l'agglomération de Crawford qui l'entourait constituait un îlot de civilisation au milieu d'un océan d'ennui. Et c'était vrai. L'université se trouvait à 3000 km de Bussar, la capitale, et les régions terraformées qui les séparaient étaient exclusivement consacrées à l'agriculture. Il n'y avait eu ni forêt à abattre, ni colline à aménager, ni montagne à contourner qui aurait pu rompre la plate monotonie des champs de maïs, succédant aux champs de haricots, puis de blé, puis encore de maïs, puis aux rizières, à perte de vue. Le poète radical Salmoun Brevi avait enseigné quelque temps à Knighton-Elser, avant la mutinerie de Glennon Height. Lorsqu'il avait été radié, avant de se distransporter sur le vecteur Renaissance, il avait déclaré à ses amis que le comté de Crawford, sur le continent sud de Sinzer, de la planète de Barnard, représentait, à son avis, le 8e cercle de la désolation sur le plus infime furoncle au cul de la création. Sol et Sarai Weintraub s'y plaisaient cependant. Crawford, avec ses 25 000 habitants, semblait construite sur le modèle de quelques villes des grandes plaines américaines du 19e siècle. Les rues étaient larges et bordées d'ormes et de grands chênes qui formaient des voûtes épaisses. Barnard avait été la deuxième colonie extrasolaire de la Terre, aménagée plusieurs siècles avant l'apparition du propulseur Hawking et l'Égir, et les vaisseaux d'ensemencement à l'époque étaient énormes. Les maisons de Crawford évoquaient des styles qui allaient de l'époque victorienne à celle du renouveau canadien. Elles étaient cependant toutes blanches et posées à l'arrière de pelouses irréprochables. Les bâtiments de l'université proprement dite étaient d'inspiration géorgienne, avec une prédominance de briques rouges et de colonnades blanches entourant l'ovale de la cour d'honneur. Le bureau de Sol se trouvait au deuxième étage du bâtiment Placher, le plus vieux du campus. L'hiver, il avait vu sur les branches nues qui ciselaient la cour de leurs contours complexes. Il adorait l'odeur de craie et de vieilles boiseries qui n'avaient pas changé depuis l'époque où il était lui-même étudiant ici. Chaque jour, en montant dans son bureau, il regardait avec amour les vieilles marches en bois usées par 20 générations d'étudiants de Knighton-Elser. Sarai était née dans une ferme située à mi-chemin de Bussar et de Crawford. Elle avait eu son diplôme de théorie musicale l'année avant celle où Sol avait réussi à son doctorat. C'était une jeune femme active et pleine de vie, qui compensait amplement par sa personnalité ce qui lui manquait en beauté selon les canons en vigueur. Elle avait toujours gardé, plus tard, ce charme personnel. Elle avait fait 2 années d'études à l'extérieur, à l'université de Lugdunum, sur Deneb Drey, mais elle y avait eu le mal du pays. Les couchers de soleil y étaient trop brusques. Les montagnes si célèbres découpaient la lumière en tranches comme une faux à la lame ébréchée, et elle avait la nostalgie des crépuscules de son monde natal, qui durait des heures, avec l'étoile de Barnard flottant à l'horizon, comme un gros ballon écarlate tandis que le ciel se figeait pour le soir. Mais ce qui lui manquait peut-être le plus, c'était la plaine parfaite où, petite fille, de sa chambre du 2e étage, sous les combles à pente abrupte, elle voyait s'approcher, à travers 50 km de champs quadrillés, un rideau de tempête bleue échymose éclairé de l'intérieur par des éclairs blancs. Et c'était sa famille aussi qui manquait à Sarai. Elle avait connu Sol une semaine après être arrivée à Knighton-Elser. Il lui avait fallu 3 ans pour se décider à la demander en mariage, et elle avait accepté. Au début, elle ne voyait rien d'extraordinaire chez ce petit étudiant de deuxième cycle. Elle s'habillait toujours à la mode du Retz, s'intéressait au mouvement musical post-destructionniste, lisait Hobbit et Nihil, ainsi que les revues d'avant-garde du Vecteur Renaissance et de TC Carré. Elle affectait d'être blasée par la vie et d'utiliser un vocabulaire de révolutionnaire, et rien de tout cela n'allait vraiment avec l'étudiant en histoire demi-portion, mais assidu, qui avait renversé sur elle une salade de fruits à la soirée d'honneur du doyen Moore. Les qualités exotiques qu'aurait pu conférer à Sol Weintraub ses ascendances juives étaient annulées par son accent barnardien, sa garde-robe de la boutique des princes de Crawford, et aussi le fait qu'il était venu à la réception, distraitement, avec sous le bras un exemplaire des Variations sur la solitude de Détresque. Pour Sol, cela avait été le coup de foudre. Il ne pouvait détacher son regard de la fille aux pommettes rouges et au rire argentin, ignorant la toilette coûteuse et les ongles démesurés à la mode des mandarins, pour ne retenir que le charme pétillant de la jeune fille, qui avait tout pour faire des signaux énergiques à un jeune homme essolé. Sol ignorait qu'il souffrait de la solitude, jusqu'à ce qu'il eût rencontré Sarai. Mais après lui avoir serré la main et lui avoir renversé sa salade de fruits sur le corsage, il comprit que la vie sans elle serait éternellement vide s'il ne l'épousait pas. Ils convolèrent la semaine qui suivit l'annonce du recrutement de Sol comme professeur à l'université. Leur lune de miel se déroula sur Alliance Maui. C'était la première fois qu'il utilisait le Distrans. Ils louèrent pour 3 semaines une île mobile sur laquelle ils visitèrent les merveilles de l'archipel équatorial. Sol ne devait jamais oublier les images paradisiaques de ce voyage au soleil et au vent du grand large. La plus chère et la plus secrète de ces images était celle de Sarai surgissant toute nue de l'océan après un bain de minuit, entourée des 1000 feux des étoiles de la centralité et de celles qui brillaient dans le sillage phosphorescent de l'île et sur son propre corps. Il voulait avoir un enfant immédiatement, mais la nature ne leur donna satisfaction qu'au bout de 5 ans. Sol n'oublierait jamais comment il avait tenu le ventre de Sarai dans le creux de ses mains, tandis qu'elle se tordait dans les douleurs. L'accouchement fut difficile, jusqu'au moment où, finalement, incroyablement, Rachel Sarah Weintraub naquit à 2h01 du matin au centre médical du comté de Crawford. La présence de l'enfant ne fut pas sans troubler l'existence solipsiste de Sol en tant qu'universitaire distingué, et celle de Sarai en tant que critique musicale pour l'infosphère de Barnard. Mais ils ne s'en plaignirent pas. Les premiers mois mêlèrent continuellement les fatigues et les joies. Tard, le soir, entre 2 tétées, Sol entrait sur la pointe des pieds dans la chambre de Rachel pour la regarder dormir dans son berceau. Le plus souvent, Sarai était là aussi, et ils contemplaient ensemble, main dans la main, le miracle d'un bébé en train de dormir sur le ventre, les fesses à l'air, la tête sous le rebord capitonné du berceau. Rachel était l'un de ces rares enfants qui parviennent à être naturellement charmants sans devenir précocement imbus d'eux-mêmes. À l'âge de 2 années standard, sa personnalité et son aspect physique étaient déjà frappants. Elle avait les cheveux châtains, les pommettes rouges et le sourire de sa mère. Ses grands yeux bruns étaient ceux de son père. Les gens disaient qu'elle alliait ce qu'il y avait de mieux dans la sensibilité de Sarai aux qualités intellectuelles de Sol. Un psychologue de leurs amis, spécialiste des enfants, leur avait dit un jour que Rachel, à 5 ans, lui semblait particulièrement douée pour son âge. Elle présentait, d'après lui, tous les signes d'une curiosité intellectuelle parfaitement structurée, avec des tendances profondes à l'empathie et à la compassion, ainsi qu'un sens de l'équité aigu. Un jour, dans son bureau, alors qu'il étudiait des documents datant de l'ancienne Terre, Sol tomba sur un passage écrit par un critique littéraire du XXe ou du XXIe siècle à propos de la manière dont Béatrice influençait la conception du monde de Dante Alighieri. Elle seule, Béatrice, avait encore une réalité pour lui. Elle seule donnait encore un sens au monde et de la beauté. Sa nature devint un phare pour lui, ce que Melville devait appeler plus tard, avec plus de sobriété que nous ne pouvons le faire aujourd'hui, son méridien de Greenwich. Sol s'interrompit pour chercher la définition de méridien de Greenwich, puis continua sa lecture. Le critique ajoutait une note personnelle. « La plupart d'entre nous, je l'espère, ont une Béatrice dans leur vie, épouse, enfant ou amie, quelqu'un qui, par sa nature même, sa divinité innée ou son intelligence, nous rend inconfortablement conscients de nos mensonges lorsqu'il nous arrive d'en faire. » Sol avait alors arrêté le défilement du texte et s'était penché vers la fenêtre pour contempler l'enchevêtrement géométrique des branches au-dessus de la cour d'honneur. Rachel n'était pas d'une perfection insoutenable. À 5 années standard, elle coupa méthodiquement avec une paire de ciseaux les cheveux de ses 5 poupées préférées, puis coupa encore plus court ses propres cheveux. À 7 ans, décidant que les travailleurs immigrés qui vivaient dans les maisons délabrées des quartiers sud de la ville n'avaient pas une alimentation assez équilibrée, elle vida tous les garde-manger, congélateurs et synthétiseurs de la maison, réussit à convaincre 3 de ses amis de l'accompagner et distribua l'équivalent de plusieurs centaines de marks prélevées sur le budget alimentaire de la famille. Quand elle atteignit ses 10 ans, Rachel, en réponse à un défi lancé par Stubby Berkowitz, voulut grimper au sommet du plus vieil orme de Crawford. Elle était parvenue à 40 mètres du sol, soit à moins de 5 mètres du faîte, lorsqu'une branche cassa. Rachel dégringola sur les 2/3 de la distance qui la séparait du sol. Son père fut prévenu sur son persoc au milieu d'un cours sur les conséquences morales du premier désarmement nucléaire sur la Terre. Il quitta sa classe sans un mot et franchit en courant les 12 pâtés de maison qui le séparaient du centre médical. Rachel avait la jambe gauche cassée, 2 côtes enfoncées, un poumon perforé et la mâchoire fracturée. Elle flottait dans un bain de liquide nourricier réparateur lorsqu'il fit irruption dans la chambre où elle se trouvait. Elle réussit, en le regardant par-dessus l'épaule de sa mère, à sourire légèrement et à lui dire, à travers l'appareil qui lui plâtrait la mâchoire, « Papa, j'étais seulement à 5 mètres du sommet, peut-être moins. La prochaine fois, je suis sûre de réussir. » Rachel réussit brillamment dans ses études secondaires. Elle reçut des propositions de bourses de différentes écoles spécialisées sur 5 mondes, ainsi que de 3 universités, parmi lesquelles figurait Harvard sur la Nouvelle-Terre, mais elle préféra s'inscrire à Knighton Elser. Sol ne fut guère surpris lorsque sa fille choisit, comme matière principale, l'archéologie. L'un des plus chers souvenirs qu'il gardait d'elle était celui des longs après-midi qu'elle passait sous l'auvent, lorsqu'elle avait à peine 2 ans, à remuer la terre, ignorant les araignées et les icopèdes, courant montrer dans la maison chaque bout de plastique et chaque phénix décoloré qu'elle avait déterré, demandant des explications sur leur origine et sur les gens qui les avaient laissés là. Elle décrocha son diplôme à 19 ans. Tout l'été, elle travailla à la ferme de sa grand-mère, puis elle se distransporta au début de l'automne. Elle passa alors 28 mois en temps local à l'université de Reichs sur Friholm. Lorsqu'elle fut de retour chez elle, ce fut comme si les couleurs étaient revenues dans l'univers de Sol et de Sarai. Durant les 2 semaines qui suivirent, leur fille, à présent adulte et responsable d'une manière rarement donnée à des individus faisant 2 fois son âge, prit plaisir à se reposer chez elle. Un soir, alors qu'il se promenait sur le campus, juste après le coucher du soleil, elle questionna son père sur leur héritage culturel. « Dis-moi, papa, est-ce que tu te considères toujours comme un juif ?» Surpris par la question, Sol s'était passé la main dans les cheveux avant de répondre. « Un juif ? Oui, je suppose. Mais cela ne signifie peut-être plus pour moi la même chose qu'avant. « Est-ce que je suis juive ?» avait alors demandé Rachel, dont les joues luisaient dans la pâle clarté du ciel. « Tu l'es si tu choisis de l'être. Tout cela n'a plus le même sens depuis que l'ancienne terre est morte. Si j'avais été un garçon, m'aurais-tu fait circoncire ?» Sol avait éclaté de rire, à la fois ravi et embarrassé par la question. « Je suis très sérieuse, » lui avait dit Rachel. « Je suppose que oui, ma louloute, » avait dit Sol en rajustant ses lunettes. « Mais je n'y avais jamais réfléchi avant, je l'avoue. Es-tu déjà allé à la synagogue de Bussard ?»« Pas depuis ma bar mitzvah, » répondit Sol en repensant au jour où, 50 ans plus tôt, son père avait emprunté le week-end de l'oncle Richard et avait emmené toute la famille à la capitale pour y célébrer le rite. « Papa, pourquoi les Juifs pensent-ils que tout cela a moins d'importance maintenant qu'avant l'Égypte ? Sol avait écarté ses mains puissantes qui ressemblaient plus à celles d'un tailleur de pierre qu'à celles d'un universitaire. « Voilà une excellente question, Rachel. C'est sans doute parce que la plus grande partie de notre rêve s'est éteinte. Il n'y a plus d'Israël. Le nouveau temple a duré moins longtemps que le premier et le deuxième. Dieu a rompu sa parole en détruisant la terre une seconde fois. Et la diaspora que nous connaissons maintenant est éternelle. Mais il y a d'autres endroits où les Juifs conservent leur identité ethnique et religieuse, insista Rachel. C'est certain. Sur Hébron et dans certains secteurs isolés du confluent, on trouve des communautés entières, hassidiques, orthodoxes, asmonéennes, tout ce que tu voudras. Mais elles ont plutôt tendance à se figer et à s'orienter vers les activités touristiques. Comme un parc thématique, si tu veux. Est-ce que tu veux bien m'emmener demain au temple Beth-El? Je pourrais emprunter son strat à Kaki? Inutile. Nous pouvons prendre la navette de l'université. C'est d'accord. Cela me fera plaisir d'aller avec toi à la synagogue. La nuit tombait sous les grands ormes. Les lumières de la ville s'allumèrent de part et d'autre de la grande allée qui conduisait à leur maison. « Papa, avait déclaré Rachel, je vais te poser une question que j'ai dû répéter 1000 fois depuis l'âge de 2 ans. Est-ce que tu crois en Dieu ?» Sol n'avait pas souri. Il n'avait aucune autre réponse à lui donner que celle qu'il lui avait déjà répétée 1000 fois. « J'attends de voir. » Le mémoire d'études supérieures de Rachel portait sur les artefacts d'origine non humaine ou pré-égyrienne. Durant 3 années standards, Sol et Sarai ne virent Rachel qu'en quelques occasions espacées, entrecoupées d'envois de pelures distrance à partir de mondes exotiques relativement proches, mais n'appartenant pas aux Retz. Il savait que ses études sur le terrain n'allaient pas tarder à la conduire bien au-delà du Retz, dans les confins où le déficit de temps dévorait la vie et les souvenirs de ceux qui restaient derrière. « Où diable se trouve cet Hyperion ?» avait demandé Sarai durant le dernier séjour de Rachel, juste avant le départ de son expédition. « On dirait une nouvelle marque de produits à récurer. C'est un endroit formidable, maman. Il y a plus d'artefacts non humains sur cette planète que partout ailleurs. » À l'exception sans doute d'Armagast. Dans ce cas, pourquoi ne vas-tu pas sur Armagast, qui n'est qu'à quelques mois du Retz? Pourquoi te contenter du numéro 2? Hyperion n'est pas encore un pôle d'attraction majeur pour les touristes, bien qu'il commence à poser des problèmes là-bas aussi. Les gens qui ont de l'argent voyagent de plus en plus en dehors du Retz. Sol était intervenu d'une voix soudain rauque. Ce sont les labyrinthes que tu as l'intention d'étudier? Ou bien les artefacts appelés tombeaux du temps? Les tombeaux du temps, papa. Je vais travailler avec le professeur Melio Arundez, qui en sait plus que n'importe qui sur les tombeaux. Je croyais qu'ils étaient dangereux, fit Sol d'un ton aussi neutre que possible, mais avec un serrement de gorge. Rachel sourit. Tu penses à la légende du Gritch? Il y a 2 siècles qu'on n'entend plus parler de ça. Mais j'ai vu des documents sur les événements troublants qui ont accompagné la seconde colonisation. Commença Sol. Je les ai vus aussi, papa. À l'époque, on ne connaissait pas encore les grosses anguilles de roche qui descendent chasser dans le désert. Elles ont sans doute emporté quelques colons, et cela a dégénéré en panique. Tu sais bien comment naissent les légendes. D'ailleurs, les chasseurs les ont exterminées depuis. Aucun vaisseau ne se pose là-bas, insista Sol. Il faut y aller à la voile, ou à pied, ou je ne sais par quel foutu moyen de transport archaïque. Rachel se mit à rire. Dans l'ancien temps, les gens qui arrivaient là-bas par voie aérienne sous-estimaient les effets des champs anthropiques, et il y a eu des accidents, c'est vrai. Mais il y a aujourd'hui une ligne de dirigeables qui fonctionne très bien. Il y a aussi un grand hôtel, appelé Forteresse de Chronos, sur les contreforts des montagnes du Nord, qui reçoit chaque année des centaines de touristes. « C'est là que tu descendras ?» demanda Sarai. « Une grande partie du temps. Ça va être fabuleux, maman. » Pas trop fabuleux quand même, j'espère, avait dit Sarai. Et ils avaient souri tous les trois. Rachel resta 4 ans en transit. Pour elle, ce ne furent que quelques semaines de fugue cryotechnique, mais Sol souffrit de son absence encore plus que si elle avait été quelque part dans le Retz, occupée et inaccessible. L'idée qu'elle s'éloignait de lui à une vitesse supraluminique enveloppé du cocon quantique artificiel de l'effet Hawking, lui semblait effrayante et de mauvais présage. Ils avaient toujours de nombreuses activités. Sarah avait abandonné la critique pour se consacrer davantage à des problèmes locaux liés à l'environnement. Mais pour Sol, ce furent des années particulièrement productives, durant lesquelles il fit paraître son deuxième livre, bientôt suivi d'un troisième. Le deuxième, Repère Moreau, connut un tel succès qu'il fut sollicité dans tout le Retz pour donner des conférences et participer à des symposiums. Il y alla quelquefois seul, quelquefois avec Sarai, mais bien que l'idée de voyager ne leur déplût pas en soi, ils se lassèrent vite des changements de nourriture, de gravité et de lumière solaire, et Sol préféra, au bout d'un moment, rester chez lui pour se consacrer à des recherches sur son prochain livre ou participer à des conférences, le cas échéant, par l'intermédiaire du système interactif de l'université. 5 années s'étaient presque écoulées depuis le départ de Rachel, lorsque Sol fit un rêve qui allait bouleverser sa vie. Il se voyait dans ce rêve errant à travers un énorme espace parsemé de colonnes de la hauteur d'un séquoia de bonne taille, avec un plafond trop haut pour être discernable, qui laissait passer des rayons d'une lumière rouge presque solide. De temps à autre, il apercevait des formes mouvantes de chaque côté dans la pénombre. Il crut ainsi voir, à un moment, une paire de jambes de pierre qui s'élevaient dans la nuit comme des sculptures monumentales. Il lui sembla distinguer également une sorte de scarabée de cristal qui tournait très haut au-dessus de sa tête, illuminé de l'intérieur par des faisceaux de lumière froide. Finalement, il s'arrêta pour se reposer. Derrière lui, au loin, il entendit ce qui ressemblait à une immense conflagration, comme si des forêts et des cités entières étaient en train de brûler. Devant lui brillaient les lumières vers lesquelles il se dirigeait depuis le début, 2 ovales d'un rouge grenat. Il épongeait la sueur de son front lorsqu'une voix retentissante venue de nulle part lui dit « Sol, prends ta fille unique, Rachel, que tu aimes, et rends-toi sur le monde qu'on appelle Hyperion pour l'immoler par le feu à l'un des endroits que je t'indiquerai. » Et dans son rêve, Sol s'était dressé pour s'écrier « Tu ne peux pas parler sérieusement !» Et il avait repris son chemin dans la pénombre, toujours guidé par les ovales grenats qui brillaient maintenant comme des lunes sanglantes flottant au-dessus d'une plaine indistincte. Et lorsqu'il s'était de nouveau arrêté, la voix retentissante avait répété « Sol, prends ta fille unique, Rachel, que tu aimes, et rends-toi sur le monde qu'on appelle Hyperion pour l'immoler par le feu à l'un des endroits que je t'indiquerai. » Sol fut secoué par le poids de cette voix puissante, et il s'était adressé de manière distincte aux ténèbres en leur disant « J'avais bien entendu la première fois. La réponse est toujours non. » Il avait compris à ce moment-là qu'il était en train de rêver, et une partie de lui-même avait apprécié l'ironie du scénario. Mais une autre partie de lui ne demandait qu'à se réveiller au plus vite. Au lieu de cela, cependant, il se retrouva soudain sur une terrasse basse qui dominait une vaste salle où Rachel était étendue, nue, sur une énorme roche. La scène était éclairée par les 2 ovales rouges. Sol s'aperçut alors qu'il tenait quelque chose dans la main droite. Baissant les yeux, il vit un long poignard à la lame courbe d'une seule pièce qui semblait en corne. La voix, qui donnait plus que jamais à Sol l'impression de correspondre à l'idée que se faisait de la voix de Dieu, le réalisateur d'une production holo à bon marché, s'éleva de nouveau. « Sol, il faut m'écouter attentivement. L'avenir de l'humanité dépend de ton obéissance en la matière. Tu dois prendre ta fille unique, Rachel, que tu aimes, et te rendre sur le monde qu'on appelle Hyperion pour l'immoler par le feu à l'un des endroits que je t'indiquerai. » Sol, las de ce rêve qui le mettait quelque peu mal à l'aise, s'était alors tourné pour jeter au loin le poignard dans la nuit. Et quand il avait voulu voir de nouveau sa fille, toute la scène avait disparu. Seuls les ovales rouges demeuraient plus près de lui que jamais, et il se rendait compte maintenant qu'il s'agissait de gemmes à multiples facettes, chacun de la taille d'un petit monde. « Sol, je t'ai donné ta chance, Sol Weintraub. Si tu changes d'avis un jour, tu sais où me trouver. » Il s'était alors réveillé, riant et frissonnant en même temps de ce cauchemar. Ce qui l'amusait surtout, c'était l'idée que le Talmud et l'Ancien Testament tout entier auraient pu n'être rien d'autre qu'un vaste mélodrame cosmique de série Z.